Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Créer un Festival, épisode 10. 6 mois plus tard, nous sommes de retour. Je suis moi-même de retour, donc Yann Rieder avec Christopher Bugo. Salut Christopher.
Salut Yann.
Alors, je suis cofondateur et responsable de l'administratif, notamment, ou de l'organisation interne, on va dire, pour le festival. Tu es, quant à toi, Christopher, l'instigateur, cofondateur, et également responsable de la production de ce qui se passe au niveau des spectacles. J'ai envie de te poser une première question, mon cher Christopher. La dernière fois qu'on s'est parlé, on a annoncé 2 spectacles lors d'une conférence de presse avec plein de monde. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ?
Alors oui Yann, alors tout d'abord désolé si on n'a pas trop donné de nouvelles depuis ces 5 mois et demi du dernier podcast. On est à 5 mois et demi du spectacle et c'est 6 mois qu'on vous a pas donné de nouvelles. Tout simplement parce qu'on était très très occupé. Beaucoup de choses ont été faites, notamment en fait ce qui est une première phase moi que je noterais, c'est-à-dire que quand on s'est laissé la dernière fois, on retourne dans le temps, Marty. nous étions à la première conférence et juste après, nous avions ouvert la billetterie. C'est ça, je crois, où on s'était laissé, Yann. Hein, on est bien d'accord.
On avait ouvert la billetterie. Les gens ont pu entendre la première conférence de presse. Tu étais malade d'ailleurs à l'époque.
Oui, tout à fait. J'étais zombifié en plus. Déjà que je le suis déjà un petit peu d'habitude, mais là, c'était pire que tout. Donc finalement, la toute première phase, qui était une phase vraiment importante pour nous après cette ouverture, c'était la structuration. On s'est vraiment structuré. On a notamment eu Gaël qui s'est encore plus investi, qui finalement maintenant fait partie du comité directeur.
Donc notre directeur technique Gaël Braillard qui a effectivement grimpé les échelons, fait énormément de choses à l'intérieur du comité du festival, alors même qu'ils n'en faisaient pas véritablement partie. Donc ça nous a semblé assez évident assez vite qu'il fallait un petit peu le titulariser de ce côté-là. Il met tellement de temps, tellement d'efforts pour faire en sorte que l'événement du 3 novembre se passe bien et soit vraiment à la hauteur de ce qu'on espère faire, que ce serait complètement idiot de le laisser sur le bas-côté au niveau structurel.
Oui, et puis en fait, on s'est rapidement rendu compte, toi et moi, il y avait quelque chose finalement qu'on avait relativement peu travaillé. C'était l'organisation du festival lui-même. Comment on allait placer les bénévoles, qui allait faire quoi. Et en fait, finalement, on s'est rapidement rendu compte que finalement, faire un festival, même si finalement, c'est un festival de taille moyenne ce qu'on fait, c'est pas non plus Paléo, Montre Jazz ou je ne sais quel autre très très grand festival, mais finalement il faut quand même qu'il y ait un niveau et un nombre de bénévoles et d'une organisation derrière qui doit être assez costaud. Et en fait le fait d'avoir Gaël en fait et qui a structuré tout ça a été quelque chose qui nous a fait rendre compte à un moment donné de se dire ah bon, alors très bien, c'est bien comment on est parti, mais il va falloir certainement qu'on restructure un certain nombre de choses. Ça a été le cas effectivement par rapport à la technique où on a vu un peu les choses à partir de ce moment-là un peu différemment, et également au niveau communication. Parce que un des autres grands points, c'est que le pauvre Yann, il s'occupait aussi de la communication, et on s'est rendu compte en fait finalement qu'avec entre l'administratif, entre toutes les gestions des séances, les c'est le maître des clés un peu Yann, tout ce qu'il y avait, tous les à côté, finalement toutes les choses que tu devais faire, on s'est rendu compte que la communication en fait c'est impossible que tu la gères à toi tout seul. Et donc il a fallu finalement qu'on réencadre tout ça, puis qu'en plus on crée un pôle communication.
Il y a eu un double problème en fait, c'est que de mon côté en tout cas, je peux pas parler pour tout le monde dans le comité, même si j'ai l'impression que c'est un problème assez endémique dans ce genre de cas de figure. J'ai eu une montée de boulot sur d'autres projets en même temps, et en même temps sur celui-là également, d'avoir la communication, l'administratif et le reste, ça s'est élargi au fur et à mesure qu'on a avancé. C'est devenu de plus en plus difficile et de plus en plus exigeant. Donc on a eu la chance de d'avoir du monde pour nous aider là-dessus, sur la communication notamment. On va donner des noms dans un instant, mais on a des gens extrêmement talentueux maintenant qui travaillent sur la communication, les visuels, les vidéos, ce genre de choses. Et je tiens également à préciser, là, cette semaine, la semaine où on se parle, où on enregistre, et d'ailleurs la semaine de la publication également, j'enchaîne les rendez-vous pour reléguer de l'administratif. De sorte que, même si techniquement je suis responsable administratif, je m'en occupe le moins possible. Parce que la vérité, et ça c'est quelque chose vraiment qui est très important si vous vous amenez à faire des tâches, on va dire, organisationnelles, même simplement à l'intérieur du comité, à l'intérieur du staff bénévole d'un festival, ça va tout vous bouffer. Et avoir d'autres responsabilités autres que juste être le responsable des pendules à l'heure, c'est quasiment inimaginable. C'est possible de filer un coup de main ici et là, mais en vrai, si vous ne faites pas ça juste en rémunéré et toute votre semaine, le simple fait de devoir gérer les pendules, ça vous prend tout le temps que vous pouvez dédier à ce genre de truc.
Moi, je pense, en fait, c'est plus un problème systémique, en fait, qu'autre chose. C'est que, alors, tu l'as dit à très juste titre, ce que tu fais, en fait, je tends le maître des pendules, comme tu aimes te dire, et je trouve que ça te définit bien. C'est vraiment quelque chose qui prend du temps, et je pense que, j'avais discuté un peu de ça avec des personnes qui travaillent un peu dans le monde du business et disaient « Ah, mais en fait, toi, t'es le directeur et puis Yann, c'est le CEO. » Et c'est vrai que finalement, en fait, on a un peu cette structure-là où moi, finalement, je dois donner un peu des axes stratégiques et m'occuper de toute la production, qui est un truc assez énorme. Mmh. Et finalement, après, bah toi, Yann, tu dois t'occuper finalement de la mise en place de tout côté administratif qui permet en fait de réussir nos objectifs. Et finalement, rien que le fait finalement de manager… Et ben en fait ça prend un temps fou. Et souvent d'ailleurs Yann, le chose la plus longue que tu passes du temps à faire, c'est de répondre à un tel, répondre à un tel, et puis d'orienter finalement telle personne. Mmh. Et des fois juste d'orienter les gens et de leur donner la bonne information et de la faire et donner la bonne validation, parce que Yann c'est aussi celui qui valide chez nous. Hein. Ça prend un temps énorme, Et du coup c'est vrai qu'au niveau de notre structuration actuelle aussi, c'est vrai qu'on continue à recruter des bénévoles pour justement encadrer ou bien moi ou bien Yann, parce que finalement on se retrouve dans cette difficulté où on n'a pas le temps toujours d'être un faiseur, même si on voudrait souvent l'être plus, quoi.
Non, il n'y a clairement pas le temps, et c'est la raison numéro 1 pour laquelle ce podcast n'a pas eu d'épisode depuis décembre. Il y a eu une tâche récurrente dans ma to-do list qui était faire un nouveau, créer un festival, parler de ce qu'on fait, etc. C'est jamais venu parce qu'à chaque fois il y avait quelque chose d'autre à faire. À tel point d'ailleurs, et ça c'est une anecdote que je juge assez importante, que parfois l'accumulation des choses, alors ça concerne pas que le festival évidemment, hein, mais l'accumulation des choses, ça m'a fait des journées qui étaient infernales, et pourtant je suis assez habitué d'un calendrier assez plein, et d'autre part dans certains cas j'ai dû refuser du boulot qui était payé. Alors je suis pas à la rue, hein. J'ai encore la chance en tant qu'étudiant de vivre chez mes parents, donc ça me permet de me faire vivre sans aucun risque, mais c'est très clairement une variable d'ajustement, et je sais que pour là je termine mes études mi-juin fin juin, je sais que de fin juin jusqu'en novembre, jusqu'au moment du festival, je vais volontairement pas chercher de taf, parce que je sais pertinemment que j'aurai pas le temps. Je sais pertinemment que ce serait me lancer dans un engagement qui serait hypocrite, et j'ai envie de faire au mieux pour le festival et qu'il puisse réussir au mieux, et ça signifie d'avoir le maximum de mon temps et que ce soit en gros le truc que je fasse au moins 3 jours par semaine. Là actuellement c'est le truc que je fais un jour par semaine réparti par-ci par-là sur plein de journées, mais c'est vraiment pas évident. C'est le même problème pour tout le monde. Je dirais juste que dans mon cas, quelqu'un un peu de comme celui-là, tu as l'impression au départ pernicieuse que tu vas pouvoir le répartir plus facilement et que tu vas pouvoir faire attendre les gens. C'est faux. C'est absolument faux. Mmh. Tu vas vite te rendre compte que tu es face à des impératifs horaires ou de dates qui sont extrêmement serrés, parce que tu fais face, et ça c'est un truc dont on se doutait, Christopher, mais qu'on a vraiment eu l'exemplification ces derniers temps, que tout peut changer à la dernière minute. Mmh. Et je dirais même, tout peut changer à la dernière minute plusieurs fois. Quand on te le dit à l'avance, tu dis non, c'est bon, ouais, c'est une anecdote, c'est arrivé une fois à un mec, etc. Pas du tout, ça va t'arriver tout le temps.
Oui, c'est toujours les inconnus qui débarquent. Et le problème des inconnus, c'est que, comme par définition, elles débarquent jamais quand on s'y attend. Uh-huh. Et le problème, c'est que Yann et moi, on doit diriger la bête. Et quand il y a un problème, il y a pas le choix, il faut y aller, quoi. Et même si des fois on a d'autres choses à côté, il y a vraiment pas le choix, quoi. Il faut y aller. Et c'est vrai que c'est une grosse difficulté. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais quand même prendre un petit peu aussi de hauteur. Finalement, voilà, là, on est en train de dire, voilà, qu'on a eu, on a rencontré tel problème, mais il faut bien voir, et moi, j'ai à peu près la certitude que malgré tout, on a pris la bonne décision organisationnelle, parce que c'est vrai que moi, à titre personnel, voilà, justement, nous, là, par rapport à cet exercice de créer un festival, on essaye vraiment de vous donner un peu des
Je pense qu'il y a deux conclusions importantes. Un, on a pris cher. Deux, on a pris les bonnes décisions.
Oui, on a pris bonne décision parce que justement, moi, c'est là où je veux venir justement sur ce point, c'est heureusement qu'on n'a pas voulu avoir un système de comité. Parce que justement, alors ce qui est très drôle, c'est qu'Yann, ensuite, il a dit, écoute, Christopher, surtout, on ne porte pas sur un comité où il y a 50 personnes et 50 personnes qui donnent leur avis, parce qu'on est foutu. Et c'est vrai que moi, quand je disais comme ça, j'ai dit, ok. Mais si tu veux, quand je t'ai dit ok à ce moment-là, je me rendais pas compte de l'importance stratégique à ce moment-là de la décision qu'on prenait, parce que finalement, ce côté directeur CEO dont je parlais entre toi et moi, notamment par rapport à nos tâches à l'un et à l'autre. Finalement, au bout du compte, c'est vrai que on râle tous les deux des fois parce que c'est vrai que c'est difficile parce que bah, effectivement, comme tu dis à très juste titre, bah, sur cette première édition, on peut pas se payer parce que voilà, on essaye vraiment de tout mettre tout l'argent qu'on peut dans le festival lui-même pour se donner une chance. Bah voilà, sur la durée.
Oui, évidemment. Simplement en termes d'investissement de temps, on prend cher. Je peux te dire que la journée de la deuxième conférence de presse, enfin tu m'as vu cette journée-là, j'étais pas détendu. Et les gens peuvent aller revoir sur le Facebook Live parce que je gérais à la fois la technique et la présentation. Quand je me suis rendu compte que la technique avait marché, que ça avait été stable tout le long, j'ai sauté en l'air de joie, tellement j'étais au bout du truc, j'ai vu ça, j'ai fait putain oui, mon dieu quoi.
Oui, alors ça c'est un autre sujet, c'est qu'en plus on utilise vraiment les outils, tous les outils qu'on a, on les utilise finalement, et les Facebook Live comme on fait nous. Mmh. Généralement, ce sont des très 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 grosses institutions qui font ça. Et nous, finalement, avec nos moyens du bord, on arrive quand même à faire quelque chose qui tienne la route. Ouais, on peut être assez fiers sur ce point. Ça, c'est sûr.
Il faut pas avoir honte de faire du bricolage. Je rappelle que ce Facebook Live, il tenait parce qu'on avait une chaise sur une table et que du coup, on avait un téléphone sur la chaise. Qui était au-dessus de la table et un téléphone sous la chaise sur la table pour avoir en fait pour filmer la même chose sans que les deux téléphones s'obstruent. Donc vraiment avec rien vous pouvez faire des trucs assez élaborés. Le truc le plus difficile c'est de faire tenir un téléphone qui n'a pas de support sur sa tronche, et ça je peux vous dire qu'on a passé un bon moment.
Oui, c'est bien beau les iPhone 10 hein, mais ils sont tellement ronds ces machins qu'ils ne tiennent pas. Oui, alors juste pour revenir donc sur ce point lié au comité lié à l'organisation.
Oui, oui.
Moi, c'est aussi le point, en fait, parce que voilà, on est là pour ça. C'est vous avez, tout à l'heure, je vous ai déjà dit un truc important. Mmh. J'ai dit, ah, tiens, là, on a passé janvier, février à s'organiser. Oui. Et ça, c'est un point important parce que justement, tout à l'heure, Yann, tu disais, ouais, qu'il y avait des fois des choses qu'on n'avait pas forcément prévues et tout. Moi, très franchement, je disais, tu vois, Yann, t'inquiète pas, début d'année prochaine, enfin, 2017, tu vois.
Ça sera calme.
Tu sais, ça sera calme. Et en fait. Oui, voilà. Et en fait, la grosse chose que, bah, moi, le premier, j'avais pas anticipé. C'est que finalement, en fait, janvier-février, c'était pile poil le bon moment pour s'organiser, c'est-à-dire aussi bien, comme je disais, sur le festival lui-même que sur se structurer au niveau de tous les gens qui allaient nous rejoindre petit à petit. Et finalement, c'est vraiment quelque chose sur lequel, et encore une fois, c'est que là encore, je pense que c'est quelque chose qu'on a plutôt eu raison de faire, et je pense qu'on a bien fait, c'est qu'il faut prendre du temps sur ce point-là. Et moi, c'est la meilleure chose que je peux vous dire, parce que moi, je vois les problèmes qu'on aurait pu avoir, franchement, aujourd'hui, Yann. Si on s'était pas bien structuré, on aurait été dans une vraie catastrophe. Une vraie catastrophe parce que voilà, par exemple, là, Yann, là t'es dans un moment où t'as ton mémoire de fin d'études, des choses comme ça, où d'un coup tu peux pas être aussi flexible qu'avant, où d'un coup je pouvais t'appeler et te dire, écoute, là, Yann, il y a telle chose, faut vraiment qu'on se débrouille pour arriver à le faire. Là, en ce moment, c'est juste pas possible. Et heureusement, finalement, qu'on a quand même notre équipe de com qui est en place. Il y a deux trois choses qui sont en place. Enfin, structurellement, on a finalement pas mal de check and balance maintenant qui nous permet de quand même d'avancer sur différentes choses. On demande à un tel ou un tel de faire telle chose. Et en fait, je me rends compte, c'est un aspect essentiel finalement qu'on a réussi plus ou moins à faire, qui est en fait un aspect tout simplement essentiel quand on crée ce genre d'événement, quoi. C'est vraiment se structurer, quoi.
Non, je suis tout à fait d'accord. Il y a eu l'aspect structuration et il y a eu l'aspect qui est le deuxième aspect à mon avis et qui est un des plus importants. Il y a eu l'aspect contrat, facture, pognon. Ça paraît, on dirait que c'est des aspects qui sont séparés. Gestion du pognon, budgétisation, marketing, etc. Regardez un peu les ventes. Mais en fait, c'est tout le même problème parce que c'est différents points d'une même chaîne. En gros, pour pouvoir payer des trucs. Et quand je dis payer des trucs, payer un lieu, faire venir des invités, payer des spectacles, des licences, etc. Vous devez avoir quoi ? Vous devez avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, oui. Vous devez faire quoi ? Vous devez vendre des billets. Pour vendre des billets, vous devez faire quoi? Vous devez informer. Pour informer, vous devez faire quoi? Vous devez faire de la com. Et pour faire de la com, en partie, vous devez faire quoi? Vous devez payer des supports de com. Avec quoi est-ce qu'on on paye des supports de com? Je vous le donne en mille, et généralement c'est par billet de lui-même acabit, du pognon. Et c'est tout le problème.
Voilà, c'est bien, t'as tout résumé.
Et quand on part de zéro avec un festival qui n'a pas de précédent, il n'y a pas de caisse de l'année dernière.
Et oui, sans blague.
Et c'est là que tu joues au grand jeu de on a vendu tant de billets, est-ce qu'on peut demander de faire descendre telle somme de la vente de billets pour pouvoir payer la com, pour pouvoir vendre plus de billets?
Ouais, et c'est pour ça qu'en fait finalement on s'en est très bien tiré finalement avec cette fameuse conférence, et donc qui était la dernière fois où on a pu discuter voilà tous ensemble. Finalement cette première conférence a été très importante parce que c'est ce qui nous a permis littéralement en fait finalement de pouvoir démarrer le festival.
L'appui des trois orchestres sur cette conférence là, je pense que ça nous a apporté plus qu'on aurait pu s'en douter.
Ah oui, alors il y a de ça, mais en fait il y a eu aussi finalement quelques mécènes qui heureusement ont été oui. aussi là. Et voilà, et moi c'est pour ça que je reprends de nouveau un petit peu de hauteur, de nouveau aussi toujours dans l'histoire qu'on va vous donner quelques conseils si vous voulez vous lancer là-dedans, parce qu'on est en plein dedans, hein, donc voilà, c'est pour
alors
ça
oui, voilà, conseil numéro 1, soyez riche.
Ouais, non, et plus encore, ouais, non, mais il y a ça, mais plus encore, je veux dire, parce que voilà, on est bien la preuve quand même qu'on peut y arriver en étant vraiment pauvre. Mais plus encore, je pense qu'il faut faire très attention à la trésorerie. Vraiment, en fait, un aspect stratégique essentiel, c'est la gestion de la trésorerie. Et nous, on est en plein dedans. Et là, par exemple, on doit faire des calculs. C'est-à-dire que le problème, c'est que
votre. On va réestimer les dépenses de com. Dépenses de com, ça fait alors qu'on a augmenté, enfin, le palier com, on l'a augmenté entre décembre et maintenant, hein, si je dis pas de bêtises. On l'a augmenté d'un quart, si je dis pas de bêtises, mais ouais, ou d'un tiers, pardon, d'un tiers.
Peut-être on est passé de 15 à 20 000 ou 16 à 20 000, ouais, c'est possible.
Ouais, un truc comme ça.
Ouais, c'est possible. C'est possible.
Oh, on a dit le nombre en antenne, ouh là là.
Ouais, bon, ça on peut le dire, voilà, ouais, on dépense 20 000 francs de...
Ouais, on a budgétisé 20 000 francs, effectivement, de communication. Si vous voulez nous faire concurrence, sachez qu'il va falloir dépenser plus.
C'est ça. Mais voilà, mais en fait, pour revenir à la trésorerie, c'est vraiment très important parce que vous devez en fait calculer tous les axes stratégiques de votre festival. Alors nous, par exemple, qu'est-ce que c'est ces axes stratégiques? C'est avoir une salle. C'est tout bête, hein. Si vous n'avez pas de lieu pour jouer votre festival, vous êtes dans la mouise. Donc déjà, payez votre salle ou votre lieu dans lequel vous êtes. Voilà. Donc ça, c'est une première dépense que de toute façon, vous n'aurez pas le choix de faire. Après, l'autre chose que vous devez payer, c'est effectivement, comme a dit très juste titre Yann, c'est-à-dire si vous voulez vendre du billet, vous allez devoir faire de la communication. Donc vous allez devoir préparer en fait des sous de côté pour pouvoir payer au moins le départ au niveau de votre communication. Et après, il y a vos licences, c'est-à-dire que par exemple typiquement nous pour avoir la licence Dragon Ball, voilà, c'est, je crois que c'est le cas le plus intéressant. Vous devez payer des avances pour pouvoir réserver la licence, être sûr que la Dragon Ball est pour vous et pas que d'un coup il y a un concurrent qui le ferait, parce que bien évidemment ceux qui les ayant droit, ils sont sollicités ou c'est bien les producteurs d'ailleurs sont sollicités de partout. Donc premier arrivé, premier servi, et pour réserver, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on donne de l'argent d'avance, comme ça vous êtes sûr d'avoir votre festival avec votre programmation comme vous le voulez. Et pour cela, vous devez à chaque fois allonger de la thune très clairement, hein, et du coup donner de l'argent à tout le monde pour que vous ayez pu réserver tout ce que vous voulez. Voilà, et une fois que vous avez tout ça, vous pouvez commencer un peu à répartir votre trésorerie pour pouvoir payer le reste un peu plus sur la durée.
Alors, je vais poser une question que les auditrices et les auditeurs de ce podcast se posent probablement. En décembre, on a mis en vente 2 spectacles. Autour de février-mars, on a mis en vente le billet trio, qui est donc 3 spectacles pour le prix de 2. Et en fin avril, on a mis en vente le 3e spectacle, qui est Melodiosa. La question que j'ai envie de te poser, Christopher, c'est qu'est-ce que tu peux dire publiquement des ventes et qu'est-ce que tu peux dire publiquement de l'analyse de cela, c'est-à-dire est-ce que ça va assez vite, est-ce que c'est bon signe, mauvais signe, etc.
Alors, en gros, on est entre aujourd'hui et au moment où vous recevrez le podcast, vous serez autour de 550 places, je pense, vendues. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut communiquer sur l'ensemble du festival. D'ailleurs, pendant la dernière conférence, j'avais dit qu'on était à environ 500 places. En fait, on était à 499. On avait triché une place près. Enfin, bon, bref. Tout ça pour vous dire que, voilà, on est entre 500, 600 à 600 places. En fait, en gros, on n'est pas trop mal. La difficulté, c'est la suivante. Quand je discute avec les producteurs parisiens, eux disent voilà, on lance un spectacle et puis ils attendent vraiment que tout de suite ça se vend. La difficulté, c'est que nous finalement on défend une marque et on donc qui est Cross Dream et on vend finalement aussi un concept qui va s'intercaler finalement avec toute l'offre culturelle qui existe en Suisse romande. Donc tout cela veut dire que les gens vont acheter leur billet quand ils jugeront que acheter un billet pour Cross Dream deviendrait une priorité pour eux. Qu'est-ce que cela veut dire cela? Cela veut dire que les gens, par exemple, sont des ultra fans de, par exemple, de Dragon Ball. Alors ça, on le sait, il y en a déjà plein qui ont acheté leur billet. Nous, typiquement, on a déjà vendu plus du quart de la salle sur Dragon Ball, ce qui est déjà pour nous d'ailleurs une bonne nouvelle. Et si on y a réussi, c'est parce qu'on sait que bah voilà, il y a des fans hardcore de Dragon Ball et ceux-là bah ils ont acheté leur billet bien en avance parce que pour eux c'était un vrai enjeu finalement de venir voir leur spectacle. Et voilà, et donc et chacun va devoir trouver son temps. Et nous la difficulté c'est que nous notre job en attendant, il faut qu'on communique et finalement qu'on communique pour que chacun quand il trouvera son temps de se dire ah voilà, moi c'est maintenant le moment pour acheter mon billet. Nous il faut qu'on communique pendant tout ce laps de temps en espérant qu'à chaque fois capter tous ces gens à l'instant T où ça sera le moment en fait où la personne se dira ah, tiens, voilà, c'est maintenant j'achète mes billets pour Cross Dream. Nous ce qui est très positif c'est que on a une campagne de com au niveau de l'event qui est très positif. On a beaucoup travaillé sur l'event de Cross Dream. Alors, vous pouvez aller voir. Hein, ça s'appelle, si vous tapez sur Facebook Cross Dreams Festival 2018, vous allez tomber dessus et vous verrez, en fait, on arrive à plus très loin des 2000. On est juste en dessous des 2000 personnes qui se disent intéressées ou venant au festival. Et pour nous, c'est super, en fait, ça, parce que c'est un super indice sur le fait que les gens sont intéressés par.
Sur l'intérêt derrière. Ouais.
Voilà, qu'il y a vraiment l'intérêt derrière. Et croyez-moi, 2000, c'est vraiment très bon. Il y a eu plein d'events là ces derniers mois et c'est très rare les events qui vont aussi haut, excepté si vous êtes un très gros, c'est-à-dire que si vous êtes Polymanga en Suisse par exemple ou Monstre Jazz ou Paléo, bien sûr que vous êtes plus haut que nous, mais en fait quand on regarde à événements comparables, en fait on est souvent bien plus haut que ceci, donc ça veut dire que quelque part on a bien fait notre job au niveau des réseaux sociaux.
Mais ça, c'est la politique du curant de deux chaises, parce que dans un certain sens, on peut te rétorquer, oui, il y a autour de 2000 personnes qui sont abonnées à l'événement Facebook, mais ils vont pas tous venir. Et d'autre part, on peut répondre, oui, mais tous ceux qui vont venir, ils sont pas forcément sur l'événement Facebook. C'est difficile à quantifier. C'est un bon indice, mais c'est pas une preuve, on va dire, soit de force, soit de faiblesse, de manière définitive.
La difficulté pour nous, en fait, c'est que moi, quand je discute avec des gens, c'est qu'il y en a beaucoup qui me disent « Oui, on va acheter les billets, mais plus tard. » Et finalement, c'est pour ça que c'est intéressant pour moi d'avoir ce Facebook, parce que d'un coup, c'est hyper rassurant enfin, pour nous de se dire « Ouais, alors effectivement, quand même, ça suffit quand même beaucoup d'intérêt. » Donc, les gens, à un moment donné, vont quand même acheter leurs billets quand ils vont voir, ce que c'est. Là, on commence à diffuser un peu des médias, des vidéos, des choses comme ça. D'un coup, voilà, tu te rends compte de ce que c'est, tu dis « Ah oui, si, ce truc, ça, c'est fait pour moi, c'est bien, etc. » Et tout. Et finalement, le fait d'avoir cette indice, parce que ce qu'on appelle en marketing la transformation, hein, c'est-à-dire vous communiquez, etc. et tout, faites du marketing, et puis la transformation, c'est le moment en fait où la personne achète ce pourquoi vous avez communiqué, vous avez fait du marketing. Et c'est exactement dans ce cas-là où on est nous, c'est que quelque part on a cette incertitude simplement sur la transformation, parce que c'est vrai que il y a une grande différence finalement entre les 2000 de Facebook, sachant comme tu dis toi Yann, il y a pas tout le monde qui a eu la news aussi via Facebook, il y en a beaucoup qui ont la news ailleurs, via la Fnac, via nos partenaires ou voilà. Et bien effectivement, c'est 500 et quelques billets qu'on a vendus pour le moment. Et moi l'hypothèse que j'ai et dont je suis quasiment certain, c'est que pour l'instant pour beaucoup de gens, c'est encore tôt pour acheter les billets, excepté les fans. Donc moi, ce que je pense, l'hypothèse de base que j'ai, c'est aujourd'hui, on a vraiment capté les fans.
Le running gag, c'est quand même les gens qui disent, et c'est pas du tout contre eux, hein, mais c'est juste de voir la ligne finale ou le but se reculer. Au départ, c'était j'achèterais bien des billets, mais vous avez pas annoncé le spectacle jeu vidéo. Puis ensuite, j'achèterais bien un billet, mais vous avez pas annoncé les trios. J'achèterais bien le billet, mais d'accord, il y a le trio, mais vous avez toujours pas annoncé le jeu vidéo. Et ensuite, c'est j'achète plus tard.
Oui, c'est ça. Mais il faut remarquer quand même que.
Mais c'est une dépense, hein. C'est une dépense. C'est dans un événement qui est en novembre, donc c'est pas facile de se projeter comme ça. Je comprends tout à fait.
C'est ça. Et en plus, c'est un concept qui est assez nouveau. Ça, c'est aussi l'autre chose. C'est-à-dire qu'effectivement, utiliser l'orchestre symphonique pour aller voir du Dragon Ball et voir, parce qu'il y a aussi de l'image. Je tiens encore à le redire. C'est quelque chose de particulier. Mais voilà, je suis persuadé que les gens vont venir au fur et à mesure. Il faut, nous, c'est quoi, c'est qu'on doit ne pas lâcher et en fait rester patient. Et puis il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que il s'est passé entre temps le concert qu'il y a eu à Barcelone, le même que nous en fait, hein, vu que bah, c'est une sorte de tournée européenne, hein, Dragon Ball. Et c'était très intéressant parce que eux, ils ont vraiment vendu les billets le dernier mois et demi. Et c'est comme ça que je vois aussi les choses par rapport à nous. Déjà parce qu'on aura la com papier. En octobre et puis même un peu en septembre, mais voilà, il faut, c'est-à-dire que moi, dans de base, c'est que l'on soit, j'ai envie de dire cet été à 700-800 places, et après que l'on donc on vende en septembre et octobre 2000 places, quand vraiment on a le grand rush, que les gens, ils ont fini avec les festivals d'été, donc finalement les gens ont envie de dépenser finalement pour quelque chose de nouveau par rapport à des sorties qui arrivent bientôt. Voilà, donc c'est un peu le projet de base. Et effectivement, le nombre de shows là que j'entends, et notamment très proche des nôtres, qui ont vendu le dernier mois 1000-1500 places, je me dis que c'est complètement réaliste et que voilà, qu'on est sur la bonne ligne.
Je te demande ça très spontanément et tu réponds pas si t'as pas envie d'y répondre, mais je crois que c'était aujourd'hui ou un autre jour, tu m'as dit ce que tu estimais pouvoir être la portée en termes de vente d'une campagne d'affichage telle que celle qu'on compte faire, vraiment d'affichage public.
Ah oui, alors très clairement, moi je pense qu'une bonne campagne d'affichage c'est 1000 places. Pour un event ou pour même pour un festival, ouais, c'est facilement 1000 places, et je dirais même 1000 places à minima. C'est alors voilà, quand vous faites une campagne de communication au niveau spectacle, la chose qu'il faut faire le plus attention, et nous on peut carrément vous dire, ça va être la moitié de notre budget com. Donc si vous calculez par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, vous imaginez combien va coûter notre campagne d'affichage.
Oui, mais ils savent pas où est-ce qu'on achète, donc c'est pas grave.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ça se trouve, on va tout acheter à Nantes et ce sera la méga feinte.
C'est ça. Ouais. Donc voilà, donc voyez bien que c'est un gros coup, hein, c'est un des coups les plus importants qu'on a nous en fait pour tout Cross Dream, peut-être après les orchestres. Donc c'est vraiment un très gros coup, mais l'affichage, voilà, c'est ce qui vous permet vraiment de vendre vos billets, parce que finalement l'affichage, ça représente grelin, il se passe quelque chose. Chez beaucoup de gens, en fait, hein, c'est vraiment l'aspect événementiel, c'est très marrant, hein. On voit une affiche, d'un coup, on se dit, ah, il y a ça qui se passe, c'est vrai. Alors, ceux qui la découvrent, ils se disent, ah, tiens, ah oui, il y a ça. Et ceux qui, en fait, ont déjà entendu parler, ils disent, ah oui, c'est maintenant. Et tout à l'heure, quand je parlais de la transformation, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que les gens voient l'affichage, et souvent, l'affichage est un des principaux, triggers, j'ai envie de dire, pour après, justement, passer à la transformation et donc acheter le billet de choses qu'on avait pu désirer plus dans le passé.
Bien, bien. Est-ce que tu as un dernier truc à voir avant la fin de cet épisode, Christopher ?
Oui, on peut simplement revenir sur le fait qu'on a produit, on a annoncé un dernier spectacle. Alors, sans rentrer dans de la publicité, mais simplement, en fait, ce qui est intéressant par rapport à cette expérience, donc voilà, ça s'appelle Melodiosa, c'est donc avec la compositrice Yoko Shimomura, qui est donc la compositrice Final Fantasy XV, Kingdom Hearts, enfin une très très grande compositrice de jeux vidéo. Et donc pour nous c'était un truc un peu nouveau parce que et en fait on va même étendre à Christian Lahn, donc qui est l'invité qu'on a pu aussi
TV Series Live,
voilà, qu'on a pu aussi valider, bah, toujours avec la dernière conférence dont Yann parlait tout à l'heure, qu'on a fait il y a quelques semaines.
Qui a une validation, je le précise, on avait la conférence l'après-midi, on a eu la validation finale le matin.
Ouais, c'est un truc incroyable ça.
Pour les deux invités, donc c'était assez rock'n'roll là aussi.
Et ouais, et donc c'est très intéressant parce qu'on découvre aussi quelque chose de nouveau en fait pour nous aussi, c'est la gestion des invités. Alors cette chose, moi je connaissais pas du tout parce que moi quand je produisais des spectacles, en fait voilà, on achetait un spectacle ou alors on construisait des spectacles, mais il n'y avait pas trop cette notion d'invité. Et c'est très intéressant en fait de découvrir comment ça fonctionne, c'est-à-dire voilà la façon dont il faut payer les cachets à l'avance, la façon dont il faut gérer avec les agents. Comment il faut inviter aussi les agents à venir au show lui-même. Donc il y a derrière une logique de production finalement qui est plus fine, peut-être un peu plus complexe aussi, mais vraiment pas inintéressante. Et moi je voulais juste en tout cas vous partager le fait que en tout cas si vous voulez faire venir des invités, c'est quelque chose en tout cas qu'il faut prendre j'en dirais très sérieusement et qui demande du temps aussi parce qu'il y a beaucoup de travail au niveau de la production, beaucoup de travail au niveau financier, hein, comme on a pu discuter aussi avec Yann tout à l'heure. On a découvert un petit peu ça aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut. Je pense qu'on n'a encore pas assez de recul justement sur ce point-là. Alors, on y reviendra peut-être, je pense, après le festival sur ce point-là. Mais c'est quelque chose. Je sens bien que c'est en tout cas que c'est quelque chose de nouveau et quelque chose que nous il va falloir au niveau organisationnel qu'on prévoit bien en tout cas. Voilà.
Non, effectivement, c'est plein d'aspects assez importants sur lesquels on reviendra, et tu me fais faire une transition absolument merveilleuse. Après le 3 novembre, là, comme on vous l'a fait remarquer, déjà, on a mis 6 mois à faire cet épisode-là, c'est un petit peu compliqué, donc on n'a pas d'espoir particulier de faire un épisode avant le jour même concernant le festival. Par contre, dans la période qui va suivre, on va dire en gros, pour être large, dans le mois qui va suivre, si possible un peu avant, le 3 novembre, c'est-à-dire le festival lui-même, clairement, un épisode de débrief qui nous permettra de revenir à la fois sur la journée du festival et sur la journée avant, la journée après, donc la journée de montage et la journée de démontage. Je pense que ce sera assez fondamental, mais également sur le processus en entier pour avoir une sorte de grand final de créer un festival. Merci de rester fidèle en tout cas à ce podcast. Les 9 épisodes précédents sont toujours disponibles à l'écoute et à la réécoute si vous ne les avez pas découverts ou si vous les avez un petit peu oubliés. Voilà, donc on vous donne rendez-vous tout simplement à dans 6 mois, quasiment. Voilà, vous avez attendu autant, donc ce n'est pas grave. On peut également se faire plaisir. Et puis, si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à venir nous voir le 3 novembre à Lausanne au Théâtre de Beaulieu. On vous accueillera évidemment avec plaisir, nous et tout le staff du Cross Dreams Festival. Voilà, l'équipe s'agrandit. On a vraiment hâte de vous faire découvrir tout le monde, si possible, vraiment tout le monde reposé après l'événement. Ce sera peu après le 3 novembre. Merci beaucoup, Christopher, de m'avoir rejoint.
Oui, merci à toi.
Et puis donc, voilà, on se donne rendez-vous très bientôt. Passez une très bonne semaine, un très bon mois. Si très bon mois. Joyeux anniversaire à toutes celles et ceux qui auront leur anniversaire entre-temps. Et à bientôt.
À bientôt.
Ciao, ciao.
On dit Outcastos ou Pouyayos ? Ah, salut, c'est Eric. J'étais en train d'enregistrer l'autopromo de Comics Outcast, le podcast français de référence sur les comics et leur multivers. Grâce à notre équipe de super chroniqueurs
et chroniqueuses
et leurs conseils et leurs critiques, découvrez les nouveaux titres DC, Marvel, Image,
et Urban,
et Valiant,
Starshot,
et Glénat,
Dark Horse
et tous les bons éditeurs indés du moment. Toutes les deux semaines, on vous rend fou avec nos débats pleins de mauvaise foi,
le trop pas,
et nos anecdotes incroyables
et inutiles
sur cet obscur film de 88,
89
et nos prestigieuses blagues d'intro.
Alors, attrapez votre téléphone, abonnez-vous vite à Comics Outcast sur iTunes. Donnez-nous 5 étoiles et votre meilleur super commentaire. C'est déjà fait ? Alors levez-vous, maintenant, où que vous soyez, et proclamez un magnifique Booyah ! Ça sert pas à grand-chose, mais ça fait du bien.
Retrouvez Comics Outcast maintenant sur radiokawa.com/comicsoutcast et sur le Booyah Comics Club, le groupe Facebook officiel des Outcastos et des amateurs de comics. L'équipe de Comics Outcast décline toute responsabilité quant à toute situation bancaire délicate. Comics vendus séparément. En cas d'accoutumance, demandez conseil à votre libraire indépendant. Pour votre santé, proclamez au moins 5 Booyah par jour. Plus d'informations sur booyahbooyah.fr.
Toi, auditeur, tu es en quête d'un rendez-vous mensuel qui parle dans les longueurs de toutes tes passions? Tu cherches une fenêtre vers tout ce que le Japon peut faire, même de plus barré et niché? Ne cherche plus!
LOL Japon est un podcast long format, animé par Amo et Concombre, mêlant bromance et japonaiserie, dédié aux animés, manga et leur industrie, jeux, cinéma. Tout y passe en statut culturel, dossier et 4 rubriques qui changent à chaque numéro. Aucune limite de temps, de ton ou de genre, avec des invités ou non.
LOL Japon est un podcast mensuel disponible sur Radio Kawa, iTunes et les applications dédiées, diffusé en direct un vendredi par mois.
Plus c'est long, plus c'est bon,
tout est bon dans le Japon.